Le journal des sciences.
Et pour commencer, Xavier, l'information de la semaine, c'est la mission européenne ExoMars qui ne s'est pas tout à fait passée comme prévu.
Ah non, en effet, l'Agence spatiale européenne a bien réussi à placer en orbite sa sonde TGO, mais elle est toujours sans nouvelles, effectivement, de son atterrisseur, Schiaparelli. Alors, comme pour Rosetta, c'est d'abord une réussite, on peut le dire, de la navigation spatiale européenne, mais beaucoup aujourd'hui considèrent l'atterrisseur comme perdu. Schiaparelli, je vous le décris, il se présentait comme deux cônes assez larges, collés par la base, deux cônes de 600 kg, quand même, lancé à 21 000 km/h sur Mars. Alors selon les dernières nouvelles, la séparation avec la sonde puis la descente de Schiaparelli dans l'atmosphère et les parachutes ont bien fonctionné, mais en fait c'est dans la dernière phase du vol que les problèmes sont intervenus, puisque les fusées qui devaient le ralentir dans le dernier kilomètre de sa chute n'ont fonctionné que 3 à 4 secondes au lieu des 30 attendus. Alors est-il tombé beaucoup trop vite? Eh bien c'est possible, dit Michel Denis, le directeur des opérations en vol d'ExoMars. Dommage donc pour les quelques données atmosphériques qu'il devait recueillir, mais il est encore trop tôt pour être certain de sa destruction.
Du point de vue, bien sûr, des scientifiques qui avaient investi des années de travail à mettre en place certains instruments, bien sûr, ces scientifiques-là sont certainement très déçus, et ça se comprend. Si on regarde la vue d'ensemble de la mission, il était prévu que Schiaparelli fonctionne quelques jours, on espérait un jour, deux jours, et tout ce qui aurait été au-delà de 2, 3, 4 jours était un bonus, donc il n'aurait pas fait une moisson scientifique extrêmement longue. Et en fait, les capteurs technologiques qui servaient à contrôler finalement Schiaparelli ont aussi renvoyé des données au TGO. Et ces données, une fois qu'elles auront été exploitées d'un point de vue technologique par les ingénieurs, seront aussi passées aux scientifiques, en tout cas certaines d'entre elles qui sont relevantes pour justement les spécialistes scientifiques de l'atmosphère de Mars. Donc même du point de vue scientifique, tout n'est pas perdu.
Voilà, tout n'est pas perdu, Xavier, puisque la suite de la mission ExoMars n'est absolument pas compromise, avec toujours l'horizon 2020 pour la prochaine mission.
Oui, ce sera la deuxième partie donc de cette mission ExoMars qui doit rechercher, je le rappelle, des traces de vie sur la planète Mars. Cette première mission avait donc un double but. D'abord, tester l'atterrisseur. Ça a été fait, on l'a entendu. Il y aura donc un nouvel atterrisseur, cette fois fonctionnel, bien équipé pour la recherche, avec une foreuse jusqu'à 2 mètres de profondeur. Mais aussi, cette mission devait mettre en place, je l'ai dit, la sonde TGO, Trace Gas Orbiter, donc pour rechercher d'abord des traces de méthane nombreuses, épisodiques pour certaines, et observées depuis Mars Express en 2004. Michel Denis avait justement dirigé cette mission.
Le TGO a été envoyé, entre autres, pour rechercher les gaz rares, dont le fameux méthane. Bon, cette histoire du méthane, ça fait 12 ans qu'on en parle. La mission dont je m'occupais avant, Mars Express, a trouvé pour la première fois des traces de méthane dans l'atmosphère en 2004. Les gens ont d'abord douté des performances de l'instrument parce qu'on était un peu limite de sa sensibilité. Donc la meilleure solution et la seule façon de régler ce débat, qui maintenant a plus d'une dizaine d'années, c'est d'y aller à une altitude qui sera l'orbite finale du TGO, qui permet de faire des observations quasiment continues ou très fréquentes autour de tous les points de la planète en toute saison pendant des mois et des années. Et là, on pourra vraiment voir où est le méthane et quand. C'est très important de savoir quand, parce qu'avec des cycles, on peut inférer indirectement sur les sources possibles, minéraloïques ou même la vie, si c'est saisonnier. Ce n'est pas une preuve, mais suivant les cycles éventuels, ça donnera une idée de quelle pourrait être la source. Ça donnera bien sûr une indication sur les endroits où il faut aller atterrir, voire éventuellement considérer des retours d'échantillons dans les années et les décennies à venir. Donc c'est clé aux étapes suivantes.
En bref, maintenant, Xavier, la Chine poursuit elle aussi son programme spatial.
Oui, elle vient d'envoyer deux taïkonautes autour de la Terre. La fusée a été lancée du désert de Gobi et c'est déjà la 11e mission qu'on appelle Shenzhou pour la Chine. Il y aura une durée de 30 jours. C'est donc aussi le plus long vol habité dans l'histoire spatiale chinoise. Alors ce lancement intervient moins d'un mois après celui du laboratoire spatial Tiangong 2, dans lequel les taïkonautes devraient conduire des expériences biologiques et physiques ou faire des vidéoconférences à destination des écoliers chinois. Aussi la plus longue sortie dans l'espace, donc communication d'une part, expérimentation de l'autre, mais aussi préfiguration d'un programme chinois plus vaste, puisque Tiangong 2 constituera la première brique d'une station spatiale prévue pour 2022.
Et puis une société privée annonce elle aussi une station spatiale d'un nouveau type, une sorte d'arche de la paix.
Ah oui, en tout cas tout le décorum des grands moonshots, vous en parliez la semaine dernière, est là pour Asgardia, du nom d'une ancienne cité de la mythologie scandinave, et qui est censée être effectivement une station spatiale internationale, je cite le communiqué, ouverte à tous et qui voudrait aiderait devenir une nation à part entière et indépendante et un membre futur des Nations Unies. Alors qui finance ce projet et pourquoi? On ne sait pas. En tout cas, un premier satellite test devrait être lancé en 2017, mais aucun lanceur n'est prévu. La société qui est basée à Vienne regroupe elle surtout des anciens scientifiques et cadres des institutions spatiales. Et en tout cas, le chiffre d'Asgardiens qui est annoncé sur le site augmente d'heure en heure. Ils étaient 460 000 il y a quelques minutes.
Deuxième sujet de cette semaine, Xavier, des chercheurs français ont enfin réussi à observer le virus de l'hépatite C. C'est une première.
Une première et une importante avancée dans le domaine des recherches sur l'hépatite C qui est réalisée par des chercheurs de l'INSERM et de l'université de Tours. Alors le virus lui est connu depuis 1987 environ, mais on n'en avait qu'une connaissance partielle, en fait indirecte, via la biologie moléculaire. Et cette fois, ce sont bien des observations directes au microscope électronique qui ont permis de l'identifier. Alors le problème, c'était que l'hépatite C a la faculté de se cacher et même de se déguiser. Vous savez que le virus affecte les cellules du foie, mais il le fait en prenant l'aspect de certaines de ces cellules. Il se déguise, ainsi c'est un virus cheval de Troie. Et donc, au lieu de chercher un élément qui est visiblement étranger à l'organisme, eh bien les chercheurs ont utilisé un marqueur pour cibler quelques protéines particulières qui sont liées au virus et ils ont observé ainsi des particules capturées, entre guillemets, au microscope. La preuve est donc faite maintenant et la structure du virus de l'hépatite C bien confirmée. Du coup, du côté thérapeutique, qu'on se prend à espérer un vaccin. Écoutez, Éric Pivert, il est maître de conférence à l'université de Tours et co-auteur de la découverte.
Ce pourquoi on n'avait pas d'image, c'est que ce virus, il a un mode de réplication, il fonctionne un peu comme si on prend l'image du cheval de Troie un peu. C'est-à-dire que le virus, dans son mode de réplication, utilise une structure qui sont les lipoprotéines, qui sont des structures qui permettent de distribuer les lipides dans l'organisme et qui sont produits par le foie. Et il vient se camoufler un peu à l'intérieur de cette structure pour sortir de la cellule et ensuite être véhiculé dans le sang ou réinfecter une autre cellule hépatique. En termes de traitement, alors ce que nous, dans notre approche, ce qui peut donner des informations, ça va être plutôt sur le versant développement d'un vaccin, puisque ce qu'on utilise pour capturer le virus met en exergue un certain nombre de protéines virales qui sont présentes à la surface en fait, des particules qui sont infectieuses et qui peuvent être visibles par le système immunitaire. C'est l'identification, de trouver la bonne molécule qui va permettre de stimuler le système immunitaire pour produire des anticorps et prévenir toute infection. Alors, dans notre équipe, on a un groupe qui travaille au développement d'un vaccin et il y a un certain nombre de résultats préliminaires qui sont tout à fait intéressants, qui ont été publiés l'année dernière et donc qui vont continuer dans cette voie. Et donc, c'est vrai que cette collaboration ou nos résultats donnent du sens à leur approche vaccinale. Il faut le redonner un petit peu de temps pour le développement du vaccin parce qu'il y a des étapes de développement. Il y a ensuite tout ce qui est le passage vers l'homme et qui est beaucoup plus long et qui nécessite énormément de travail.
Et pour finir ce journal des sciences, comme chaque semaine à la rubrique improbable, si la vue ou l'odeur du fromage vous dégoûte, rassurez-vous, tout est dans votre tête.
Tout est dans les bases neuronales du dégoût pour le fromage. C'est bien le titre d'une étude publiée cette semaine dans Frontiers of Neuroscience, jamais aussi bien nommée. On savait déjà que le fromage était le mets pour lequel il existe le plus d'aversion spontanée.
Je peux vous en parler.
Des personnes interrogées.
J'en fais partie.
Alors, qu'est-ce que c'était la cause? La culture, un peu d'affectation, une réaction salutaire lors d'un dîner en ville ou simplement une allergie? Eh bien non, les chercheurs du CNRS ont voulu tester l'hypothèse du cerveau en testant en fait ces réactions à la présentation de fromage avec deux groupes de 15 personnes. L'un qui aimait le fromage, l'autre qui ne le supportait pas. Vous auriez pu en faire partie, Nicolas.
Oui, j'aurais passé un mauvais moment, je vous assure.
Résultat, donc une fois qu'on vous aurait passé dans l'IRM à résonance magnétique, d'abord, on se serait rendu compte que la partie active de votre cerveau, lorsque vous avez faim, ne s'active pas en fait lorsqu'on vous présente un fromage.
Je vous le confirme.
Mais aussi que deux régions particulières de votre cerveau qui sont très actives, au contraire, à la présentation de ces fromages dégoûtants, ce sont celles qui constituent les circuits de récompense, en fait celles qui s'activent en présence d'un être ou d'un mets d'habitude très apprécié. Conclusion en fait intéressante, les circuits de récompense sont ici activés de manière inversée. Alors à voir si cela marche aussi à l'évocation du nom des fromages utilisés, décrits comme très fort par l'étude, je les cite, du bleu, du cheddar, du fromage de chèvre, du gruyère, de la tomme, Nicolas, où sont donc passés les poisses, le langre, le maroilles ou le minster?
Eh bien il reste dans votre frigidaire, Xavier. Merci beaucoup pour ce journal des sciences, on vous retrouve la semaine prochaine.